Le paddock RMC, Nicolas Paolorsi.
Salut les amis, le paddock RMC passe en mode warm-up du troisième Grand Prix de la saison, un Grand Prix historique au Japon à Suzuka, un Grand Prix qu'on adore décortiquer nous dans le paddock RMC. Je vous rappelle d'ailleurs que tous les podcasts débriefs des Grands Prix sont encore dispo sur les plateformes de téléchargement. Je vous rappelle également que si vous voulez avoir plein d'infos sur la Formule 1, on a notre page Instagram RMC Formule 1 dirigée par notre producteur adoré Kylian Verhoeven qui fait des tas de visuels. Vous avez même les pronos du paddock RMC avant chaque Grand Prix maintenant. On a placé la barre très très haut. Chaque ingénieur du paddock vous donne ses petits pronos. Et on se fera un classement général. Voilà pour les nouveautés. Grand Prix du Japon. Je vais vous donner les horaires dans quelques instants. Il y a plein d'actu. Il y a Max Verstappen qui a pété un plomb en conférence de presse. On se demande où sont passés les McLaren. Et puis on va s'interroger aussi sur l'avenir d'Esteban Ocon parce que ça commence à nous inquiéter. Le bilan d'Esteban Ocon face à son coéquipier Oliver Berman qui est en train de cartonner. Les ingénieurs sont avec nous et vous allez voir que on a renouvelé la team des ingénieurs un petit peu. Il y a de la jeunesse dans ce warm-up du Grand Prix du Japon. Seb Erson est avec nous. Lui, il n'a jamais de vacances. Salut Seb.
Salut tout le monde.
C'est beau ça. Toi, t'es un bosseur. Hein.
Ouais,
tu vois,
bah,
les
écoute,
autres, ils sont là, ils prennent des semaines. Toi, t'es là, tu charbonnes.
Ils profitent. Moi, je serai tout blanc, ils seront tout bronzés. Que veux-tu ? Il faut faire des choix.
Après, j'ai pas l'impression que t'es une peau à trop bronzer.
Ah, pas du tout. Tu me laisses 3 semaines en vacances sous un beau soleil, je reviens, je suis blanc comme si j'étais pas parti en vacances.
Ouais, c'est ça, c'est ça. Bien évidemment, protégez-vous des UV,
exactement.
C'est important.
Exactement.
Deux petits nouveaux, Ilyes Barry et Marie Couture sont avec nous, des journalistes de la rédaction RMC Sport. Salut les amis.
Salut.
Salut à tous, très content d'être là.
Alors, vous êtes contents, ouais, un petit peu podcast warm-up RMC, là, on va se régaler, hein.
Ah bah oui,
là,
on va se régaler.
Ouais, totalement.
Grand fan de Formule 1, j'imagine, grand passionné, vous suivez toute l'actu.
On exactement. Suit tous les podcasts, tout le paddock.
Bon, ça c'est parfait. Bah allez, c'est parti. On va se plonger dans ce warm-up du Grand Prix du Japon. Je vais vous donner déjà les horaires, c'est la tradition dans le warm-up du paddock RMC. Il faudra se lever à 3h30 pour voir la première séance d'essais libres cette nuit, la deuxième séance à 7h. C'est un week-end sans course sprint au Japon, donc les écuries vont avoir du temps pour développer leur monoplace. Dans la nuit de vendredi à samedi, la troisième séance d'essais à 3h30, les qualifs à 7h du matin vivent sur RMC en direct avec notre team principal Jean-Luc Roy. Et puis la course, ce sera dimanche matin à 7h, faut encore se lever, mais bon, ça va, 7h du mat.
Il y a le changement d'heure, hein. Attention.
En effet, il y a le changement d'heure. Mm-hmm. Tu fais bien de me le dire, Seb. Tu vois, je ne me suis pas noté ça. Heureusement que tu es là.
Ça fait comme si on se levait à 6h. Hein.
Aïe. Ah oui. Bon, bah du coup, on va peut-être se le mettre en replay, c'est ce que tu veux me dire. C'est ça que tu veux me dire. Bon, bah.
Non, team direct, en direct, on peut. L'émotion en direct, on peut pas.
T'as bien raison. Mais j'avoue que des fois, ça, le replay, il chatouille hein, quand même. Hein. Tu vois, on a un petit peu envie d'y aller. Les copains, on va parler de ce Grand Prix à Suzuka, troisième manche de la saison. Pour l'instant, cette saison 2026 est ultra dominée par les Mercedes. Les Ferrari essayent de lutter, mais c'est compliqué. On va se poser plein de questions. Déjà, je voulais, Seb, qu'on commence par parler de ces particularités de ce circuit de Suzuka, surtout avec ce nouveau règlement, parce qu'on sait que maintenant, la grosse question avant chaque course, c'est où les pilotes vont pouvoir recharger, que va-t-il se passer pour ces nouvelles voitures sur des circuits historiques. Donc quelles sont un petit peu les spécificités de ce Grand Prix du Japon pour nos nouvelles voitures la 2026?
On a vu sur le Grand Prix d'Australie qu'il était difficile de recharger les batteries de la voiture. Et ben là au Japon ça va être un peu le même problème, un très beau tracé, une 30 grosso modo pour faire le tour, et t'as que, on va dire, deux gros freinages, et c'est au niveau des freinages que tu peux recharger ta batterie. Donc la difficulté pour cette année, ça va être à ces voitures justement de pouvoir faire un beau tour tout en rechargeant la batterie. Ça va être ça le principal intérêt. La question qu'on va avoir, c'est ok, est-ce qu'elles vont aller plus vite en ligne droite, le fameux 130R, c'est l'avant-dernier virage grosso modo. Est-ce qu'elles vont lever le pied? Parce qu'on le sait depuis plusieurs années, elles le passent à fond, ces Formule 1. Comment elles vont recharger? Ça va être ultra intéressant. Et l'enjeu principal, c'est ça. On a vu le Grand Prix d'Australie, la difficulté, c'était recharger la batterie. La Chine, c'était moins difficile parce qu'il y avait beaucoup de gros freinages. Là, on retourne sur un circuit très difficile pour les batteries. Et ça va être ça, l'enjeu. Qui va mieux gérer cette partie-là?
Oui, bien évidemment, c'est, tu le disais, l'enjeu à chaque fois que les écuries vont découvrir ces courses avec ces nouvelles voitures. Marie, il y a eu des changements là, un petit peu de la FIA hein, qui ont été annoncés, notamment pour les séances de qualifs. Au niveau du règlement, on a fait quelques modifs pour essayer de rendre les qualifs un peu plus spectaculaires. Hein. C'est ça, il faut que tu nous expliques un petit peu ce qui s'est dit du côté de la FIA et les annonces qui ont été faites.
Marie, je ne sais pas si tu as suivi grosso modo.
C'est pas par rapport aux zones de ligne droite ?
Ouais, et puis aussi, ce que la FIA a changé cette règle, je me permets de compléter, c'est qu'avant, il y avait une limite de 9 mégajoules. D'un point de vue technique, on est passé à 8. Grosso modo, si on vulgarise, parce que c'est ça l'objectif, c'est que la FIA, elle force avec des énormes guillemets les écuries à moins compter sur la recharge électrique et à voir plus d'importance avec le thermique. Et c'est ça le gros changement, parce que clairement... On
veut réduire le super clipping, en fait, c'est voilà. C'est ça. Ce fameux super clipping.
Mais en fait, c'était insupportable, tu voyais ces voitures qui allaient à fond, j'ai dit n'importe quoi, au début de la ligne, allez, moitié de la ligne droite, elles sont à 350, fin de la ligne droite, elles sont à 300 à peine, la vitesse diminue alors que les pilotes étaient pieds au plancher. Et en fait, ça, les pilotes s'en plaignent, les fans s'en plaignent, et donc il y a eu un accord de toutes les écuries pour que dès le Grand Prix du Japon et pas le Grand Prix de Miami qui est dans un mois, on adapte ce petit détail pour faire en sorte que ce soit, on va dire, plus agréable et davantage dans l'esprit de la qualif.
Ouais, parce que je sais pas vous, les amis, Ilyes, je sais pas toi ce que t'en penses, mais les séances de qualif, quand même, on reste clairement sur notre fin hein, depuis le début de saison. Tu sens que les pilotes sont pas au max de leurs possibilités.
Oui, clairement, ouais, c'est moins
c'est pas
divertissant.
Pour l'instant, tu vois, de la perf pure, quoi.
Ouais, c'est moins divertissant. On le regarde quand Charles Leclerc nous dit après les qualifs qu'il peut plus pousser comme avant, lui qui est peut-être l'un des meilleurs de la grille dans les qualifications, bah c'est moins fun à regarder, quoi. Freiner 30 mètres avant, je me souviens du freinage de Jeddah, le dernier virage de Max. Si en 2021 il la plante, c'est parce qu'il la pousse au bout cette année. Je pense que s'il y avait eu Jeddah, bah, peut-être qu'il n'aurait pas fait cette erreur. Donc bah, forcément, c'est moins fun à regarder et surtout sur la Q3. Quoi.
Ouais, c'est clair que c'est moins fun
le lift and coast voilà, en fait. C'est, tu sais, ouais. où tu lâches l'accélérateur 30 mètres avant, comme tu disais, Ilyes. En fait, comme ça, tu récupères de la batterie. Donc, tu peux avoir une meilleure accélération parce que tu as un supplément de boost. Et c'est ce côté-là qui est triste, où en fait, tu as vraiment l'image d'avoir les pilotes qui sont en train de conduire tranquillou leur voiture. Et c'est pas ça l'esprit. Et c'est bien que la F1 et la FIA aient corrigé ça.
Pas à bloc.
Bah, c'est clair. Même quand on regarde en fait, la qualification, aujourd'hui, c'est plus de la gestion. Où justement, bah, pareil, Leclerc disait que s'il pousse trop à un virage, ça va totalement dérégler sa partie recharge. Et donc, bah, c'est en fait qui va mieux le gérer sur tout le tour.
Voilà pour les spécificités hein, avant ce Grand Prix du Japon, les mesures qui ont été prises par la FIA. On va se plonger un petit peu plus sur le sportif parce qu'il s'est passé pas mal de choses, les amis, lors de la conférence de presse là qui a eu lieu ce matin, notamment un Max Verstappen qu'on a vu passablement agacé. Marie, il a carrément recalé un journaliste de la conférence de presse. Alors c'est un journaliste avec qui il avait un contentieux, qui bosse pour un média britannique, The Guardian, mais il a quand même dit « je ne parlerai pas tant que ce monsieur est dans la pièce ». Voilà, il y avait une embrouille qui datait de la saison dernière. Et surtout Max Verstappen, il dit clairement dès maintenant, après deux courses, qu'il ne sera pas champion du monde, il est ultra défaitiste, que malgré les changements prononcés par la FIA, eh ben ça n'allait pas fondamentalement changer la donne de cette saison 2026. On sent qu'il a carrément déjà tourné la page, Verstappen, Marie.
Bah c'est vrai que déjà, Max Verstappen, en conférence, c'est toujours un peu compliqué, il se limite, parce qu'on sait très bien qu'il peut s'emporter. Mais c'est vrai que là, il a carrément reconnu ce fameux journaliste de The Guardian et il lui a dit « sortez, je ne parlerai pas tant que vous ne serez pas sorti ». Et il s'en est souvenu, il s'est souvenu qu'il avait posé cette fameuse question « est-ce que c'est à cause de cet accrochage avec George Russell en Espagne que bah, vous n'êtes pas champion ?» Et ça l'avait énervé. Et c'est vrai que je pense qu'il avait aussi plus d'espoir l'année dernière que cette année. Cette année, il sent qu'il est un peu impuissant dans la voiture. On sent que la Red Bull, bah, elle n'est pas... Elle est pas au top et il sait qu'il peut malheureusement rien y faire. Et en tant que, je pense, quadruple champion du monde, ça doit être compliqué. Et puis, je pense qu'il a pas envie de donner de l'espoir. Et peut-être pour après, si jamais que la réglementation s'améliore, peut-être qu'il pourra peut-être marquer les esprits en remettant Red Bull au devant de la scène. Et je pense qu'il a plus envie, il a peut-être plus d'espoir pour l'instant. Il a plus envie d'en donner non plus aux fans de Red Bull, je pense.
Ouais, moi les amis, c'est pas que ça commence à me choquer, mais Seb, je sais pas ce que t'en penses. Ok, la réglementation, elle lui plaît pas. D'accord, on le sait. Il l'a dit que c'était de la formule E sous stéroïde. Il a fait plein de punch et on est plutôt d'accord avec lui. Mais qu'à la troisième course, il soit encore dans ce mood-là, et qu'il délivre encore ce genre de message, même si la voiture n'est pas au rendez-vous, et voir un Verstappen défaitiste comme ça. Ça me surprend parce que c'est pas dans le, il est pas dans ce mood-là normalement, Max Verstappen. Il est pas fait de ce bois-là. Tu vois ce que je veux dire?
Ouais, c'est vrai que ça fait bizarre. Après, souviens-toi, l'année dernière déjà, il le disait, le titre, il est perdu, j'y
C'est
arriverai
vrai.
jamais, c'est fini. Et finalement, il a fait une remontada de folie. Donc, encore une fois, il dit ça. Oui, je pense qu'en l'occurrence pour cette année, ça semble assez compromis. Quand on voit le rythme de Mercedes, alors Red Bull, ils peuvent progresser et ils vont progresser. Mais je pense que Mercedes est tellement loin que ça me paraît compliqué de les rattraper. Mais c'est sûr que ça fait bizarre de le voir un peu défaitiste. Et même, on est en train de voir, alors oui, les pilotes, comme le dit Jean-Luc, ils ont des contrats pour pas dénigrer la Formule 1, mais ils s'amusent. Ils s'amusent. On a un Hamilton qui se dit encore ce matin, oui, ceux qui disent qu'il n'a pas la réglementation, souvenez-vous, au kart, on faisait du yo-yo, c'est lui qui a dit ça, yo-yo, tu me passes
Ouais,
devant, je te passe devant.
totalement.
C'était ça. Leclerc qui dit, mis à part les qualifications, on s'amuse, les pilotes Mercedes, ils aiment, logique, ils gagnent. Même Isaac Hadjar dit, ouais, avec ces voitures, c'est la première fois qu'on peut se suivre plusieurs tours, que des voitures qui ont le même niveau arrivent à se dépasser, à se redépasser. Donc c'est sûr que, d'un point de vue plaisir, il est un petit peu plus isolé avec des énormes guillemets, évidemment, mais c'est pas le Max Verstappen 1 qu'on aimerait voir tout le temps. On a envie de le voir sur le devant de la grille, ça c'est évident, de dire ok, moi allez les gars, on va tout faire pour remonter. Et c'est sûr que c'est pas habituel de le voir dans cet état-là. Alors on va voir si c'est toute la saison, que le début, et ça va être assez intéressant.
Ouais, ça va être intéressant. Et moi, Ilia, je me pose une question en fait avec les propos de Verstappen. Alors c'est vrai que Seb a raison. Déjà l'an dernier, il avait un peu ces déclarations-là sur le niveau de l'écurie, le fait que la voiture était pas au rendez-vous. Et on sait ce qu'ils ont fait lors de la deuxième partie de saison en termes de développement. Ils ont réussi à lui offrir une voiture et à lui à peut-être à surperformer, à surconduire pour amener cette monoplace qui était pas dingue, quasiment au titre de champion du monde. Mais moi, je me demande s'il faut déjà enterrer Red Bull, parce que là, j'ai l'impression que dans le discours de Verstappen, il y a un tel écart que ça semble irréversible. Alors, est-ce que c'est de la politique, Iliès? Probablement qu'il y a un petit peu de com. Est-ce que tu vois Red Bull déjà terminé ou on peut pas croire à ça et ils vont nous faire une Red Bull comme d'hab, ça va bien bosser dans la saison et ça va revenir au contact?
Non, non, il faut jamais enterrer Red Bull et jamais enterrer Verstappen. Je pense qu'on l'a vu l'année dernière. Bon, ils n'étaient pas aussi loin de McLaren qu'ils sont de Mercedes. Mais c'est une nouvelle réglementation, la voiture peut évoluer. Verstappen n'a pas beaucoup eu de roulage ce début de saison. Il a eu un DNF, donc il n'a pas pu aussi bien comprendre sa voiture. Donc non, je pense que Red Bull peut toujours évoluer. Verstappen, je pense, fait un peu de politique. On se souvient de Mercedes en 2022 qui critiquait beaucoup la réglementation pour essayer de pousser la FIA à un peu revenir à quelque chose qui pouvait les avantager. C'est peut-être aussi le mood de Verstappen qui va un peu forcer le trait pour essayer de gratter des avantages. Que la FIA réduise peut-être des puissances moteurs. Non, non, je pense que c'est plus de la politique. Après, Verstappen a toujours été franc, pardon, en conférence de presse. Ça me choque pas qu'il ait des déclarations comme ça.
Ouais, c'est clair. Moi, je me demande quand est-ce que la FIA va commencer à lui dire Max, là, faut te taire, parce que tu vas
C'est
ramasser niveau
Montoya qui
amende.
s'est énervé. Je ne sais pas si tu as vu, à un moment,
Ouais,
Montoya,
ouais, ouais.
Pablo Montoya, l'ancien pilote qui était chez BMW et chez McLaren, il a dit à un moment, Max, t'es mignon, mais tu fais un taf de folie, et si t'es pas content, pars. Alors, je ne serais pas si catégorique que ça, évidemment. J'ai pas envie de dire Max part, j'ai envie de dire Max reste. Mais c'est vrai qu'à un moment, la FIA, ils vont dire, eh, t'es mignon, hein, mais t'es bien content de prendre nos millions, calme-toi. Ça va être intéressant de suivre ça. Après, tu sais, quand t'es un Hamilton, un Alonso et un Verstappen, j'ai l'impression que tu peux dire un peu tout ce que tu veux et que t'es assez protégé, j'ai envie de dire.
Surtout qu'ils
Ouais,
lui ont
tu
déjà mis
m'étonnes.
des amendes, donc je pense que même ça l'arrête pas au final.
Oui.
Oh, c'est clair que. Et puis bon, il a de quoi les payer, j'imagine. Hein. Tu vois, c'est pas comme quand nous on prend une prune à 130 balles pour stationnement. Voilà, lui, il peut arroser, il peut sortir le chéquier, Max. On les voit comment Red Bull là ce week-end, les amis? Dernière question, Marie, on les voit encore un peu à la ramasse, milieu de tableau. On les voit pas se bagarrer avec Ferrari, Mercedes, voire McLaren?
Non, non, très honnêtement, moi, ce week-end-là, en tout cas avant la trêve, je les vois pas du tout se battre avec, pas Mercedes. Et peut-être McLaren. Franchement, McLaren, il y a moyen qu'entre Red Bull et McLaren, ça se tape un peu. Pareil, Ferrari, ils sont trop devant. Donc non, je pense que Red Bull, on va être sur un milieu de tableau. On va être sur un 7-8. Et Isaac Hadjar devant Max Verstappen, pourquoi pas.
En qualification, ils ont un coup à jouer. Ils ne sont pas si loin que ça. Ferrari, c'est pas leur point fort actuellement les qualifications. Donc Red Bull peut se rapprocher. En revanche, en rythme court, je suis totalement d'accord avec toi. Ils sont un peu loin, et même Isaac Hadjar, hein, c'est ce qu'il disait au micro de Canal. On est la 5e, 6e équipe du plateau. Entendre ça de la part d'un pilote Red Bull, ouais, ça fait mal.
Ah, t'imagines que tu es derrière As en termes de rythme de course. C'est assez fou. Tiens, on parlait de McLaren. On va y aller un petit peu sur l'écurie championne du monde en titre. Qui a quand même, Ilies, des stats de dingue. Oscar Piastri n'a pas pris le départ depuis le début de la saison. Ça, c'est quand même fou. On a un Lando Norris qui galère complètement. C'est très dur pour McLaren de lancer sa saison. Et malgré tout, Norris, il a eu des propos en conférence de presse tout à l'heure où il dit « On peut vraiment avoir la meilleure voiture du plateau. J'ai entièrement confiance en mon équipe. Tu sens que le mec, il est ultra positif. » Du coup, on se demande un peu quel est le problème avec McLaren et s'ils peuvent redresser la barre, Ilias.
C'est clair, pour la petite stat, Piastri, c'est 2 DNS d'affilée. La dernière fois, c'était en 1969, c'était Bruce McLaren. Donc c'est dire à quel point ça remonte.
Bon, on l'embrasse à Bruce, mais enfin, ouais. Bon, on ne peut plus l'embrasser, mais voilà.
Mais le gros problème de McLaren, c'est qu'en en fait, on ne sait pas. Parce qu'un départ sur 4 en Grand Prix cette saison, on n'a pas vraiment pu voir quel potentiel ils avaient. En qualification... Ça allait, ils n'étaient pas si loin que ça de Ferrari. En course, ils l'étaient beaucoup plus. Norris, le seul départ qu'il a pris, il n'était pas si mauvais. Donc en fait, pour l'instant, on est juste dans l'attente avec le McLaren de voir un Grand Prix entier et de voir ce qu'ils peuvent délivrer.
Ouais, c'est un peu ça la question, Seb. Là. C'est... En fait, on ne sait pas ce qu'elle vaut, cette voiture.
Ouais, c'est
tout
clair.
Simplement.
Et puis après, il y a quand même la fiabilité. C'est intéressant. Donc pour info, donc McLaren qui a des moteurs Mercedes. Donc, les moteurs Mercedes ont été, après le double abandon au Grand Prix de Chine, ont été envoyés à Brixworth, donc c'est les bureaux de Mercedes. Il faut comprendre une chose, c'est que c'est deux problèmes déjà bien distincts. Norris, il n'est pas parti parce qu'il a eu un problème de logiciel. Et on a appris aujourd'hui qu'il avait déjà puisé dans son quota une batterie de moins, sachant qu'ils ont le droit à 3 batteries pour toute la saison. Norris, il ne reste plus que 2. Premier problème qui a été trouvé entre guillemets. Le deuxième problème de Norris, c'était un problème, lui, de composants auxiliaires reliés à la batterie. Faut clairement que la fiabilité s'améliore. Et on le sait, en ce moment, les relations entre McLaren et Mercedes sont un petit peu tendues. Mercedes, logique, ils veulent protéger leur moteur et leur savoir-faire. McLaren demande le kit de montage, grosso modo. Ils ont besoin de tourner. Mais après, je suis d'accord avec Ilias, ils ne sont pas si loin que ça. Et encore une fois, souvenez-vous, on en a déjà parlé dans cette émission. Souvenez-vous, Bahreïn 2022, premier Grand Prix de la saison, McLaren, ils sont derniers. Un an plus tard, ils remontent et ils jouent les victoires, ils jouent les podiums. Et ils ont fait ça 2 années consécutives. Et moi, j'ai envie de dire, le développement de McLaren, ça sera la clé. Et ils sont connus pour être très bons là-dedans. Donc oui, le début de saison, c'est point d'interrogation. Petite déception. En revanche, moi, je suis plutôt confiant pour la suite de la saison. Norris, quand tu l'entends en conférence de presse, il n'est pas si défaitiste que ça. Contrairement à Max Verstappen ou à Isaac Hadjar qui sont un petit peu plus déçus. Norris, il se dit « Oh, j'ai confiance en mes gars et la voiture, pourquoi pas ?» On sent un petit peu de vibes positives.
Ouais, carrément. Marie, il a déjà, mine de rien, Norris, il a 36 points de retard hein, sur George Russell. On rappelle que c'est le champion du monde en titre. Et puis, on rappelle aussi que Lando Norris, il a un peu cette étiquette, malgré lui, de champion qui n'a pas vraiment été champion, un peu à la Jenson Button. C'est dur ce que je vais dire, mais tout le monde se souvient de cette remontée fabuleuse de Max Verstappen. Et on a limite l'impression que ce n'est pas lui qui l'a gagné le titre, alors que sportivement, bien évidemment, il est champion du monde. Mais il a cette image-là aussi qui peut lui mettre un petit peu plus de pression, cette envie peut-être de prouver des choses après ce titre-là. Ça ne doit pas être facile à gérer pour les pilotes McLaren là, de devoir répondre à ses attentes et d'avoir une voiture aussi peu fiable.
C'est vrai, quand on écoute les critiques, c'est un peu un champion illégitime, un champion qui n'a pas marqué l'histoire de la Formule 1. Et je pense même pour lui, ça doit être triste parce que quand tu es gamin et que ton rêve, c'est d'être champion du monde et que tu l'es enfin et qu'au final, tout le monde te prend pour un champion un peu illégitime que personne ne va se souvenir, c'est vrai que ça va être compliqué pour lui, mais peut-être que justement, ça va peut-être lui donner la force de « Ok, d'accord, là j'ai un titre, bon, personne n'a l'air de me remarquer, mais ok, je vais en gagner un deuxième, et peut-être que là, je vais marquer les esprits. » Et je pense qu'il connaît le potentiel de sa McLaren. Je pense que malgré tous les problèmes, il peut s'en sortir, et je pense qu'on peut être étonné par les McLaren. Je pense que si les McLaren n'ont pas de problème ce week-end, et je l'espère pour avoir du spectacle, je pense qu'on pourrait avoir une belle bataille Ferrari-McLaren et que Norris pourrait peut-être un peu aller batailler et chercher Leclerc.
Et ils sont troisième au classement des constructeurs, si je ne dis pas de bêtises, avec deux voitures qui n'ont pas disputé le Grand Prix de Chine. Donc, ce n'est pas si catastrophique que ça. Ce n'est pas dingue parce que tu es double champion du monde des constructeurs, champion du monde pilote en titre. C'est sûr que ça fait tâche, mais ce n'est pas si mauvais que ça. Donc, à suivre.
C'est vrai. Bon, après, t'as raison. Mais t'as un gap. Ils ont 18 points. Oui. Ferrari qui est deuxième, on a 67. Et Mercedes 90. Alors, et puis, t'es devant As d'un petit point. Et tu devances Red Bull de 5 points. Bon, t'as un tir groupé, quoi. Entre 3 et 7, là, chez les constructeurs, c'est vraiment tir groupé. Mais oui, t'as raison. C'est pas non plus la bérésina totale.
Exactement.
T'as pas fait 0 en deux courses.
C'est pas comme Aston Martin.
Oui, c'est vrai.
Voilà.
Mais bon, circonstances est-ce qu'il faut vraiment qu'on continue à comparer avec Aston Martin?
Non.
C'est la question que je me pose.
Mais attends, vu les budgets qu'ils ont, vu les l'équipe qu'ils ont, c'est en ça où je compare.
Oui,
mais
oui, t'as raison.
Mais c'est les meilleurs des autres, j'ai envie de dire, pour le moment. Et être troisième du classement avec deux non-départs au bout de la deuxième course, oui, c'est pas fou, mais c'est pas non plus catastrophique. Ils n'auraient pas été si loin. Donc voilà, faut pas oublier ça.
Ilias, si vous voulez dire un truc.
Ouais, surtout si je peux rajouter quelque chose, c'est que circonstances atténuantes, ils ont joué le championnat jusqu'à la fin l'année dernière. Mmh. Et d'ailleurs, on voit les deux, ceux qui ont le plus de retard, c'est McLaren, Red Bull, grosso modo. Donc, je pense que aussi au fil de la saison,
tu penses que ça a impacté leur développement, c'est ça pour
certainement.
Pour le début de saison.
Là où un As a pu pleinement se projeter, à un Alpine qui a eu une saison quasi morte l'année dernière, pu se projeter sur 2026. Eux, ils n'ont pas pu directement envisager le développement de cette année. Donc, je pense que ce retard, ils vont vite le rattraper.
Bah, pendant cette trêve.
Ça peut nous dire qu'Aston Martin, ils ont eu du temps aussi, tu me diras. Vas-y, Marie.
Bah, et pendant cette trêve, je pense qu'aussi McLaren, ils peuvent rattraper leur départ. Donc, non, je pense que McLaren, à partir de dans un mois, je pense que ça pourrait être pas mal. Ouais.
Pour Miami.
C'est vrai
qu'il
va y avoir cette fameuse trêve là, due à la guerre au Moyen-Orient et l'annulation des deux Grands Prix à Bahreïn et en Arabie Saoudite, qui va permettre aux équipes de bosser fort à l'usine, d'avoir des développements, on imagine, assez conséquents. Et ça va être un vrai tournant peut-être de cette saison pour les équipes qui ont un petit peu de retard. Tiens, je vous donne un petit peu les propos de Lando Norris. Qu'est-ce qu'il disait? Il dit « On n'est pas où on voudrait être, mais tout le monde au sein de l'équipe sait de quoi il est capable. On n'est pas devenu mauvais du jour au lendemain. Parfois, ça prend un peu de temps à concrétiser ce qu'on met en place à l'usine sur la piste. Mais voilà, on a des choses en cours de développement. Il dit, nous avons l'ambition de revenir au sommet. Voilà. Bon, après, Lando Norris, il est très très fort pour garder son team avec lui. Hein.
Oui.
Déjà l'an passé, franchement,
il est britannique.
Comme c'est, ouais, c'est vrai, t'as raison. il est britannique, en effet, l'ami Lando. Tiens, troisième petit débat qu'on voulait faire dans ce warm-up du Grand Prix du Japon, c'est sur un Français. Esteban Ocon, on en a parlé avec la team du paddock RMC depuis le début de saison. On l'avait même mis dans nos previews. Si vous voulez vous repencher sur les previews du paddock RMC, bien évidemment, l'épisode est toujours dispo, où on disait que parmi les pilotes qui jouaient leur carrière cette saison en F1, Esteban Ocon faisait partie de cela parce que situation contractuelle, oui, il va devoir renégocier des choses. Parce que aussi, grosse pression de son team principal qui a dit, après cette première année, qu'ils étaient clairement déçus du rendement d'Esteban Ocon. Et Seb, depuis le début de saison, il se fait une nouvelle fois croquer Ocon par rapport à Berman. J'ai des stats là, mais depuis le 6 juillet dernier, Silverstone 2025, 14 courses, 11 fois Oliver Berman a terminé devant Esteban Ocon. Et puis il y a des petits signaux dans les prises de parole d'Esteban qui montrent qu'il y a de la tension, qu'il n'est pas super bien dans l'écurie. Enfin, je sais pas, ça sent pas très bon, non, cette histoire.
Ouais, et surtout d'avoir cette tension si tôt dans la saison. C'est ça, moi, qui m'inquiète un petit peu. Là, il y a un 17-0, donc 17 points pour Berman, 0 pour Ocon. 2-0 en qualification. Il est pas loin. Il est pas loin, c'est ça qui est un peu rageant. Après, le problème, c'est que Ocon, il est face à un rookie. Un rookie en Formule 1, c'est le débutant. Il doit être devant. L'année dernière, il se prend un 13-11 en qualification. donc il se fait battre en qualification. En points, il a 41 points, Oliver Bormann contre 38 pour Esteban Ocon. Tu te dis, mince, sur ses comparatifs directs, il est derrière. Pas loin, mais derrière. Alors oui, il y a des problèmes de fiabilité, on se souvient, sa sixième position à Singapour avant d'abandonner. Mais avec des si, on remettrait tout et on pourrait tout refaire. Là, c'est sûr que, clairement, il joue gros, mais très très gros sur le Grand Prix du Japon, parce qu'on arrive sur une trêve de un mois, et que s'il se loupe, l'écart va être encore plus grand, va falloir faire un énorme reset pendant cette pause. Là, il joue beaucoup, il joue gros, parce que c'est sa carrière, clairement. Je pense que cette pause arrive au meilleur moment pour lui, parce que dans le pire des cas, il se plante, t'as un mois pour redémarrer. Dans le meilleur des cas, tu rebondis, et tu dis, ah, ok, bon bah cette pause, elle sera un petit peu plus agréable. Là, oui, il joue beaucoup, il joue gros, là, ça fonctionne, on l'attend, il a envie, il a hâte d'être sur ce week-end de course, et face à lui, il est un très bon pilote. Mais t'es un Ocon, l'équipe t'a recruté pour être titulaire, indiscutable, certes, mais le leader, et pour le moment, t'as de l'ombre de ton coéquipier, qui est débutant. Alors oui, on l'annonce chez Ferrari dans les prochaines saisons, mais il doit être un petit peu plus haut, et il le sait, et son directeur, il l'a dit, il a raison, Ocon le pense aussi, maintenant, il va falloir aligner. Tout, les qualifs, la course, être propre quand il le faut. J'ai confiance en Esteban, mais il joue gros.
Ouais. Marie, Ilyes, là, est-ce qu'on doit s'inquiéter pour l'avenir de Ocon en Formule 1? Là, alors, bien évidemment, on grossit le trait et on fait exprès de poser cette question. C'est très prématuré, hein. On n'est qu'à la troisième course de la saison, mais malgré tout, je sais pas, c'est ce que je disais, même dans le body language, on sent que c'est pas dingue, que le relationnel avec l'écurie, c'est pas fou non plus. Ouais, est-ce qu'on doit s'inquiéter pour son avenir en F1?
Oui, clairement, c'est inquiétant. Se faire battre par un rookie, c'est jamais cool. Mais sur ce que je disais en plus, Seb, oui, Ocon n'est pas loin derrière. Et j'ai regardé encore les stats. Sur ses 8 saisons de Formule 1, il se fait battre 7 fois par son coéquipier. À chaque fois, bon, c'est des gros coéquipiers.
En qualif?
Non, au classement. Il est toujours derrière son coéquipier. À chaque fois, pas loin, mais il est derrière. C'est pas des petits coéquipiers. Il y a du Ricardo, il y a du Perez, il y a du Alonso. Parce qu'il bat Alonso en 2022. C'est la seule saison où il bat son coéquipier. Mais un pilote, il a besoin de confiance. Et quand on marque les objectifs en début de saison, battre son coéquipier, c'est dans le top 3. C'est pas 3e, mais c'est peut-être même pas 2e. Donc, c'est forcément inquiétant. Et là, je me demande si l'avenir d'Ocon n'est pas aussi un peu lié à Berman. Berman qui, je pense, peut sécuriser cette année son baquet Ferrari, selon l'avenir de Lewis Hamilton.
Tu crois ?
Selon l'avenir de Lewis Hamilton. On sait, Hamilton, il ne va pas lui rester 5 ans en Formule 1, je pense. Il aime bien faire d'autres choses. Donc, Berman peut, dans les années à venir, prendre le baquet d'Hamilton. Et si Berman part, Ocon sera sauvé. Si Berman bouche le baquet As, là, Haas va peut-être se demander si on peut passer à notre pilote de la deuxième voiture.
Même carrément raison. Vas-y, Marie.
Même psychologiquement, je pense que là, il a quand même passé 4 saisons avant chez Alpine où il a tout donné pour l'écurie. Et là, enfin, elle commence à performer. Et lui, il galère chez Haas. Il voit en plus Pierre Gasly, son meilleur ami, réussir, commencer à marquer des points. Donc forcément, je pense que ça doit être compliqué pour lui.
Mais il va rebondir. Ouais. Je suis persuadé. Il y a un côté mental qu'il a. Oui, il doit travailler, il doit tout mettre dans l'ordre, tout mettre dans la bonne direction. Je veux dire, en Chine, il n'a pas eu de bol avec la voiture de sécurité qui est arrivée au pire des moments. Ensuite, il a eu cette touchette avec Colapinto où tu dis, mince, ça c'est une erreur de débutant, tu ne dois pas faire ça, Esteban.
Il s'est fait d'ailleurs foudroyer sur les réseaux sociaux.
Ça, c'est un scandale.
N'importe quoi.
C'est tocard des réseaux sociaux qui insultent, il n'y a pas d'autre mot. Généralement, 99% des gens sont sympas, sont bienveillants. Partage des avis, même si t'es pas d'accord. Et t'as ce 1% à chaque fois qui insulte. C'est pas possible, c'est stop, c'est plus possible. Et c'est triste dans sa déclaration. Il dit, malheureusement, ça va être de pire en pire. Mais non, moi, je suis pas d'accord. On doit pas avoir ça, ni dans le sport. Et ces gens-là, c'est plus possible de les voir. Il s'est pris des menaces de mort. Ouais. Tout simplement parce qu'il a touché un pilote argentin. Et à un moment, c'est pas possible. Pourtant, Colapinto, il le sait que sa communauté, ils sont au taquet. Il leur dit, calmez-vous. La FIA, Mohamed Ben Sulayem, le président, a envoyé une lettre à Ocon pour dire on est avec toi. Et à un moment, c'est pas possible, quoi. C'est de voir ce qui s'est pris. Lisez les commentaires, même s'il en a bloqué plein. C'est pas possible. Pour une erreur, encore une fois, c'est du sport. Et tranquille, les amis. Donc, ça pour dire que si il aligne tout, ça va le faire. Moi, j'ai confiance en Ocon. Mais à présent, ça va être très intéressant à suivre. Ça, c'est clair.
Alors, vas-y, on va faire un petit tour de table. Marie, confiance en Ocon, il va redresser la barre ou pas?
J'ai tendance à être plus pessimiste que toi, Seb, je t'avoue. Non, c'est vrai, est-ce qu'il a vraiment un jour bien redressé la barre? Certes, il gagne ce Grand Prix en Hongrie parce que la chance, du talent, un peu de tout qui a été mélangé et ça s'est aligné justement ce jour-là. Mais c'est vrai que j'ai tendance à être plus pessimiste que toi et je pense qu'il va peut-être un peu s'enterrer à côté d'un Berman qui est là, qui est on fire. Là, je pense que Berman, il est sur quand même deux courses réussies. La troisième, je pense que là, il nous fait au moins un top 10. Et je pense que ça va enterrer Ocon, je pense, très honnêtement.
Ah ouais, enterrer.
Enterrer, on s'entend.
Oui,
mais voilà.
Évidemment.
Je pense qu'il
va l'éteindre.
Il va l'éteindre, exactement.
Oui, oui, oui.
Ben, je vous rappelle les résultats. Après, Elia, je te donne la parole. Mais Esteban, il fait 11e et 14e sur les deux premières courses. Berman, 7 et 5. C'est grâce à Oliver Berman que Haas est la quatrième force du plateau cette saison. Hein. Alors, on n'est qu'au troisième Grand Prix. On le répète à chaque fois, c'est très tôt. Mais malgré tout, ce que fait Oliver Berman, c'est très fort. Ilyes, Ocon redresse la barre ou l'ombre de Berman va être trop imposante?
Les deux ne peuvent pas forcément être en même temps. C'est-à-dire que pour moi, Berman va continuer sur sa lancée, à peut-être être le meilleur des autres, à gratter des top 6 quand les écuries devant vont se louper. Et c'est possible qu'Ocon redresse la barre, c'est-à-dire fasse régulièrement des entrées dans les points, mais tout en étant toujours derrière Berman.
Faut qu'il prenne des points là.
C'est ça.
Si tu veux un peu au niveau de l'image et même sportivement montrer que t'es encore présent, faut scorer quoi.
Je pense qu'il va scorer, mais qu'il sera toujours derrière Berman.
Ouais. Je vous avoue que moi j'ai du mal à me prononcer sur parce que j'ai l'impression qu'en plus il y a des réglages qui lui vont pas. J'ai l'impression qu'il a pas encore trouvé les bons setups là avec son équipe d'ingénieurs. J'ai l'impression qu'il se plaint du développement de la voiture qui est pas à son goût. Alors bien évidemment quand on sous-performe par rapport à son coéquipier en Formule 1, on sait qu'on a quand même cette tendance et qui est pas forcément une tendance, qui est peut-être une vérité d'ailleurs hein, de dire que la voiture elle est pas notre goût et tout ça. Malgré tout, je me dis qu'il va falloir un petit déclic. Et c'est vrai que cette petite trêve d'un mois, ça peut lui faire du bien, Esteban Ocon, parce que quand on voit les perfs là sur les 14 derniers Grands Prix, le rapport de force avec Oliver Berman, mais je suis totalement d'accord avec Ilyes, si Berman il continue comme ça, moi je suis Ferrari, je me pose la question de savoir si je ne coupe pas Hamilton, je ne prolonge pas Hamilton et je mets Berman dans le baquet.
Jamais. Hamilton et pourquoi Leclerc, jamais. Comment ils sont bons là? Mais jamais de la vie. Hamilton, il va continuer.
Attends, mais...
Il a la dalle qui est en train de revenir. Il a une option pour son contrat l'année prochaine, il va l'activer,
oui,
c'est sûr. Leclerc, la voiture performe, il devrait rester. Clairement, Ferrari sont un peu coincés. Pourquoi retirer? Ils vont garder, un peu comme Russell et Mercedes, souvenez-vous, il y a quelques années.
Alors, je te pose une autre question, Seb. Si Berman, il fait une saison de zinzin, 7e du championnat du monde, et que tu as des cadors sur ses côtes, t'es la Scuderia, tu pourrais potentiellement te permettre de le perdre parce que tu veux prolonger Lewis Hamilton?
Je pense que oui. Ils vont valider son contrat, ils vont lui mettre la blinde dans son contrat, plein de millions, faire une promesse d'embauche pour les années suivantes. Mais je pense qu'ils ont le même problème que Mercedes avec Russell il y a quelques années. Bottas prenait la place que Russell voulait, du coup Russell attendait chez Williams, une saison, deux saisons, trois saisons, c'est exactement pareil je pense chez Haas. T'as Hamilton qui est plutôt bon, qui rivalise avec un Leclerc, les deux vont dans le même sens pour le moment, ils vont chercher des points, ils vont chercher des podiums, je vois pas pourquoi Ferrari changerait quoi que ce soit d'un point de vue marketing, ça joue beaucoup,
ouais,
ils cartonnent, Berman c'est le futur, et je pense, et c'est dommage pour Berman parce que je l'adore, hein, mais ils vont attendre une saison, voire deux, avant de le mettre chez Ferrari, parce que priorité Leclerc-Hamilton, moi je le vois comme ça.
C'est clair, pas pour l'instant, mais après, je pense que Hamilton sera toujours là l'année prochaine, peut-être pas dans 3 ans, et surtout Hamilton, on va avoir le développement, Hamilton prend un 8e titre cette saison, ou l'année prochaine, j'exclus pas qu'il s'en va un peu à la Rosberg, bon, dans d'autres circonstances, mais qu'après 8e titre, il s'en va, il prend sa retraite,
c'est ce qu'il voulait,
Berman, c'est pour ça que je l'exclus pas, bon, on verra à la fin de saison.
Ouais, c'est ce
mais
que
c'est
il est pas prêt de le gratter, mais moi t'as raison, c'est une certitude que s'il prend un titre de champion du monde, il s'en va. Franchement, s'il s'en va pas après un 8e titre de champion du monde, je sais pas quand est-ce qu'il part.
C'est ce qui était prévu en 2021, hein, il l'avait dit. Hein, si j'ai mon titre, je pars et je reste parce que je ne l'ai pas. Hein.
Ouais.
On n'aurait pas eu Hamilton chez Ferrari, donc bon.
Ouais, c'est clair.
Pour le spectacle.
Ouais. On veut le voir gagner.
Allez, dernière ligne droite de ce warm-up du Grand Prix du Japon. Je vais vous demander vos pronos, les amis, pour la course de ce week-end. On le disait, ce n'est pas un week-end de sprint. Les écuries vont avoir le temps de développer leur voiture. On connaît un petit peu, Seb nous le disait, dans les particularités de ce tracé de Suzuka. On peut se dire que ça peut ressembler un peu à l'Australie, à Melbourne, même si bien évidemment, c'est un circuit bien différent. Mais malgré tout, dans les configuration, on peut se dire que ça peut s'approcher de ça. Je commence avec toi, Seberson, ton podium de ce week-end.
Alors, énorme surprise, préparez-vous pour moi. Je vois Russell devant Antonelli, devant Leclerc. Le même podium qu'on a eu à Melbourne. Pour moi, les trois sont devant. Et où Hamilton n'est pas très loin, mais je vois doubler Mercedes devant une Ferrari. Je prends pas de risque.
Ça me fait pas. Je pense que t'as raison, mais ça me fait pas rêver ce que tu me dis pour le spectacle, mais je pense que t'as raison. Marie.
Je fais un petit switch. J'ai envie de continuer sur la lancée d'Antonelli, de voir Antonelli en premier, Russell deuxième, et pourquoi pas un Hamilton troisième finalement.
Ça serait beau.
Ce serait pas mal. Et toi, Elias ?
On a le droit d'anticiper, faire deux pronos en anticipant la pluie ou pas ?
Oh bah oui, vas-y.
Non, attends, après, si t'es médium, tu peux y aller si t'es médium, hein, mon gars, vas-y. Hein.
Non, je pense que ça va être Russell, Hamilton, Leclerc. Je vois Antonelli avec la fougue, l'envie, au final, faire des petites erreurs et perdre le podium.
Moi aussi.
Ah ouais ? Tu vois quoi, toi ?
Moi, je vois... Qu'est-ce que j'ai mis ? J'ai mis Norris sur le podium en 3, je crois.
Oh là ! Mais c'est beau.
Ouais, j'ai mis Leclerc en 2 et j'ai mis Russell en 1. Je pense qu'il va y avoir une petite décompression Antonelli de la victoire en Chine. Et
Ouais,
je sais pas. Je
pense qu'il va être au taquet. Hein.
Mais attention, c'est vrai qu'on n'a même pas parlé des potentielles prévisions météo. Je les ai même pas sous
il
les
fait
yeux
beau.
Là. Je sais pas si
5% de risque de pluie. Il fera la même météo qu'en Chine, temps moyen. Un petit peu plus chaud qu'en Chine. Pas de pluie de prévu.
Ah, dommage, parce que c'est vrai que Suzuka sous la pluie, quand même, à chaque fois, ça nous réserve des courses assez dantesques.
Normalement. Mais je le glisse quand même. Si pluie y a, Leclerc sort du podium et c'est Verstappen qui le prend.
Ce serait beau aussi.
Ah oui. Oui,
pour l'histoire.
Oui. Moi, je vois bien un petit Pierre Gasly sous la pluie faire quelque chose de cool. Parce que l'Alpine tourne pas trop mal et le Normand sous la pluie, il sait y faire.
Week-end décisif pour Alpine, il l'a dit. Hein. Ça va dicter la suite.
Ouais,
de la
il
saison.
L'a dit. C'est vrai. Week-end décisif. Il a dit que c'était un week-end assez révélateur. Il a fait un superbe week-end en Chine. Et d'ailleurs, les deux voitures ont scoré. Voilà. À suivre ce week-end d'Alpine. Les amis, merci beaucoup. Bravo pour votre première, Marie et Elias.
Merci à toi.
À bientôt, j'espère.
Des petits roues. Comme ça, là, qui viennent, nos petits limblades à nous, comme on dit. Donc, on se retrouve lundi pour voir si vous avez été bons sur vos pronos. D'ici là, la page Instagram RMC Formule 1, vous avez toutes les news qui tombent là de ce Grand Prix du Japon sur Instagram. Vous retrouvez également Seberson sur ses réseaux sociaux. Hein. Il fait des petites vidéos, il alimente à chaque fois qu'il se passe un truc sur les week-ends de course et tous les jours, il est là, Seb. Et puis, on vous dit à lundi avec notre team principal, Jean-Luc Roy et toute la team. Bye bye.
Ciao, ciao.
Ciao, ciao.
Le paddock RMC.